Comme chaque mercredi à 17h30, c'est l'heure de Lila Info. Lila Info, le magazine consacré à l'université de Lila et à la présentation de ses différentes actions, des différents projets et des différents responsables qui expliquent donc dans cette université ce qu'on y fait et ce qu'on va y faire. L'occasion aussi de parler des problématiques qui donc aujourd'hui vont intéresser les hommes et les femmes à égalité, je l'espère. Voilà, donc nous allons parler effectivement de l'égalité homme-femme à l'université de Lille 1 avec Madame Brigitte Wallard, qui est ingénieure d'études au CRI, donc dans l'informatique, et qui est membre du groupe Égalité homme-femme à l'université de Lille 1. Bonjour Madame Wallard.
Bonjour.
Voilà, donc un thème, on est quand même, on est en droit de se demander pourquoi encore parler de l'égalité homme-femme à l'université de Lille. On pourrait considérer que dans une université, ce problème était définitivement réglé depuis longtemps.
Oui, c'est hélas ce que beaucoup pensent. Et en fait, en réalité, quand on étudie les chiffres et les statistiques, on s'aperçoit que on en est toujours au même point en 2010. On n'a pas évolué au point de vue de cette égalité, puisque les chiffres nous le prouvent. Mmh. Voilà.
La tendance a plutôt est plutôt en régression par rapport à ces droits ou à cette égalité qui me paraît quelque chose de nécessaire et un objectif largement à atteindre.
Tout à fait. Je pense que on commence à sentir que effectivement, si on ne fait rien, on n'avancera pas. Puisque on n'a rien fait jusqu'à présent, on n'a pas suffisamment encore avancé pour, disons, avoir des résultats probants. Et au contraire, sur certains indicateurs, on s'aperçoit qu'on peut régresser, effectivement.
Lesquels, par exemple?
Alors, on a fait paraître, justement, un petit dépliant qui a été distribué à l'ensemble des personnels de l'université, qui présente différents schémas. Diagramme avec les différentes proportions entre les catégories le pourcentage d'hommes ou de femmes dans ces différentes catégories. Par exemple, quand je pense au Biatos, il y a les catégories A, B et C. Donc on a des chiffres de 2004 à 2007 et on s'aperçoit qu'on n'avance pas, au contraire, on est pénalisé. Enfin, je parle d'un domaine que je connais mieux, c'est les Biatos, puisque je suis moi-même Biatos, mais au niveau des enseignants, on peut voir effectivement des enseignants-chercheurs la même chose. Il y a une amélioration très lente au niveau des enseignants et enseignants-chercheurs, alors qu'au niveau des Biatos, la différence est négative pour les femmes.
C'est plus facile pour une femme d'avoir des fonctions dans le monde politique que dans l'université, visiblement.
Visiblement, si vous regardez la composition des trois conseils, vous apercevez qu'effectivement, les trois conseils de l'université, le conseil d'administration en tout cas, et le conseil scientifique, eh bien, il y a une écrasante majorité d'hommes. 23 hommes dans le conseil d'administration pour 6 femmes. 34 hommes dans le conseil scientifique pour 6 femmes.
Est-ce que vous pensez que les quotas, enfin définir des quotas, serait une solution, présente un intérêt ou un danger?
Je pense qu'il est préférable de faire évoluer les mentalités, essayer de voir où on peut avoir des marges de manœuvre et les travailler, plutôt que de passer par des quotas. Pour l'instant, on n'en est pas à définir des quotas. On en est à faire progresser la réflexion sur ce thème-là, essayer de prendre des mesures, s'efforcer à prendre des mesures. La première mesure, par exemple, ça a été de voter cette charte égalité homme-femme ou femme-homme. Je sais qu'il y a un dialogue sur est-ce qu'il faut d'abord dire femme-homme ou homme-femme. Eh bien, il y a eu en CA de juillet 2008, une charte égalité qui a été votée. Ça a été très fort. Ça a été très fort parce que dans cette charte, si vous la lisez, vous apercevez que on a mis des mesures qui vont permettre de faire progresser cette égalité homme-femme. Ça a été pas facile, je pense, d'obtenir ce vote, mais nous l'avons obtenu. Cette charte, elle est reproduite sur ce dépliant qui a été diffusé à l'ensemble des personnels. On espère que ça l'a été à l'ensemble des personnels. Je pense que ça l'a été. Et on s'est aperçu dans le concret que, par exemple, un enseignant a changé son optique à un moment donné parce que, grâce à cette charte, c'est une femme qui avait pris un congé maternité et qui hésitait à se présenter à une promotion parce que le congé maternité, ça n'avait pas été forcément bien accueilli dans son laboratoire. Et grâce à cette connaissance et maintenant cette diffusion d'informations de l'existence de ce groupe de travail et de la charte, eh bien, elle a candidaté à sa promotion. Mmh. On a un problème par rapport à aussi l'autocensure, effectivement, des femmes, et on va travailler là-dessus encore davantage. Et il faut donc faire connaître l'ensemble des personnels et des étudiants. Hein. Les étudiantes également sont concernées, puisque nous participons aux journées portes ouvertes depuis 2 ans maintenant, pour sensibiliser les lycéens, souvent c'est des lycéennes qui viennent sur l'université, aux problèmes qu'elles peuvent rencontrer et aussi à la capacité qu'elles peuvent de progresser dans la filière universitaire et ne pas s'arrêter au premier cycle.
Alors, c'est vrai que dans l'université, on peut dire qu'il y a au moins autant de femmes que d'hommes, du moins dans les étudiants.
La proportion, je ne l'ai pas sous les yeux. Effectivement, on est une université pluridisciplinaire. On s'aperçoit quand même qu'il y a plus de garçons dans les disciplines techniques, physique, chimie, et davantage de filles dans les disciplines. Voilà, c'est ça. C'est aussi certainement un des facteurs qui fait qu'il y a un déséquilibre. Et ça fait partie aussi de notre démarche lors des JPO, donc des journées portes ouvertes, de sensibiliser les lycéennes à l'ouverture des matières scientifiques aux filles. Et les filles réussissent très bien. En général, elles réussissent très très bien, voire mieux que les garçons dans ces filières-là, ou d'une façon générale dans toutes les filières d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a encore un a priori des filles, une peur de s'engager dans des voies scientifiques par rapport justement à cette peut-être timidité ou cet état de fait qu'il y en a moins a priori que de garçons ?
Elles sont certainement. Il y a eu des journées d'études qui ont été réalisées sur ce thème-là. À Lille 3, l'ambition des jeunes filles. C'est toute une journée de débats, de conférences, d'interventions de différentes personnalités pour savoir pourquoi, effectivement, on ne voit pas arriver les filles dans certaines filières, pourquoi elles choisissent telle et telle filière, pourquoi elles ne vont pas plus loin. Alors, il y a tout un ensemble de facteurs qui amènent à ce choix des étudiantes. Je pense qu'une meilleure information, effectivement, des possibilités qu'elles ont et pour leur éviter qu'elles craignent des choses, peut-être des idées préconçues. Pour l'instant, je crois que c'est plus du domaine de l'information à faire auprès des étudiantes et faire comprendre qu'elles sont capables d'aller au-delà de ce qu'elles croient.
Mmh. Si on prend les problématiques des femmes qui sont représentantes du monde universitaire dans les lieux de représentation, est-ce que leur vie au sein de ces conseils est difficile, plus difficile que pour des hommes ? Est-ce qu'elles se sentent parfois agressées, incomprises ou reniées, niées ?
Pas nécessairement. Disons, après, c'est une question de personnalité. Hein. Vous voyez, au niveau des différents conseils, finalement, quand on voit au conseil d'administration 23 hommes, 6 femmes, effectivement, elles sont en deçà, mais quand elles sont arrivées là, elles savent se défendre aussi. Hein. Elles savent affirmer leur point de vue. Elles savent faire participer autant qu'un homme aux décisions du conseil. Donc, le souci n'est pas là. Le souci est pour arriver jusque-là. Mmh. Pour arriver jusque-là parce qu'il y a tout un ensemble de barrières qui font que c'est très difficile pour une femme d'arriver là. On va prendre un exemple, si vous voulez bien, sur les doctorants. Comment sont choisis les doctorants? On s'aperçoit qu'on a souvent plus de doctorants garçons que filles. Et une enseignante me confiait qu'elle n'était que deux doctorantes dans son laboratoire contre six garçons doctorants. Et elle trouvait qu'elles avaient un peu de difficulté, ces deux filles-là. Et elles se sont aperçues, en fait, qu'elles étaient moins aidées par l'enseignant. L'enseignant, plus naturellement, allait vers les garçons, les aidait, les suivait. Et elles étaient un peu mises à l'écart.
Mais bon, on peut imaginer que pour l'enseignant, il y a aussi une approche peut-être de timidité par rapport aux filles, ou qu'il n'y a pas une demande qui est suffisamment exprimée de la part de ces jeunes filles.
On peut essayer de trouver des explications, des prétextes. Après, on rentre plutôt dans des prétextes, peut-être. Parce que pourquoi les chiffres sont aussi révélateurs de problèmes, si vous voulez? Pourquoi on rencontre ça partout alors ce serait partout pareil? Je crois qu'il y a un problème de mentalité. On a peut-être le sentiment qu'un garçon arrivera plus loin, que c'est un meilleur, entre guillemets, poulain qu'une fille pour arriver à un haut niveau. Et ensuite, donc, ça peut décourager des jeunes filles par le fait d'avoir observé des problèmes par d'autres amis. Ça peut les décourager à avancer.
Alors, est-ce qu'on peut les inciter à appeler à l'aide plus, je veux dire, les enseignants, si elles sont un petit peu en difficulté, ne pas hésiter à aller les voir en disant, est-ce que vous pourriez m'expliquer davantage là?
Donc, vous voulez...
Pour ces étudiantes, oui. Si elles veulent être aidées, il faut peut-être qu'elles n'hésitent pas à faire une demande express, je veux dire.
Je pense qu'arrivées à ce niveau-là, elles n'en sont plus à pas oser demander. Je pense qu'elles ont demandé et puis, naturellement, l'enseignant retourne vers les garçons. On n'arrive pas à avoir l'écoute qu'elles aimeraient. Mmh. Voilà.
Est-ce qu'il existe dans les formations des tandems, des gens qui travaillent ensemble ou des groupes dans lesquels justement cette dynamique de groupe homme-femme peut trouver un mode de fonctionnement je veux dire positif?
On a parlé, on a organisé une journée d'études sur la femme au travail et au mois de janvier il a été question effectivement de créer par exemple des unités transversales pour travailler sur la parité. Essayer de sensibiliser à la fois les filles et à la fois les garçons sur ce thème de la parité pour casser les idées reçues qui, un peu comme vous l'exprimez, oui mais c'est parce que vous n'osez pas, oui mais aujourd'hui il n'y a plus de problème de parité filles-garçons. Il faut essayer avec les chiffres précisément d'expliquer pourquoi ces problèmes persiste et que si on ne fait rien, il n'y a pas de raison qu'il ne persiste pas. Il y a maintenant beaucoup d'études qui ont été réalisées qui montrent que on ne va pas parler de ségrégation, mais cette non-parité filles-garçons se fait dès le départ, dès la maternelle, dès la primaire. Des études sérieuses prouvent que les professeurs des écoles ont le réflexe qui est dans notre société, bien de proposer aux garçons des calculs et proposer aux filles plutôt de la littérature, par exemple.
C'est quand même curieux parce que dans l'éducation nationale en primaire maternelle, il y a 80% de femmes enseignantes.
Oui, oui, mais elles reproduisent les mêmes schémas qu'elles ont elles-mêmes eu étant enfants. On ne se rend même pas compte, je dirais. C'est sociologique, ça fait partie de notre histoire. On a eu l'habitude d'avoir ces schémas-là, et c'est pour ça qu'on a fait notre affiche pour les journées portes ouvertes avec un nounours pour le garçon et puis une poupée pour la fille. Parce qu'on parle de poupée, on va penser fille. On va parler de nounours, on va penser plutôt garçon. Hein. Et Et voilà, si vous voulez, dans la vie quotidienne, on applique des schémas qu'on a vécu avant, dans notre enfance, parce que sans même s'en rendre compte. Le problème, c'est ça, c'est que souvent, sans même s'en rendre compte, on produit des schémas involontairement qui amènent à ce qu'il n'y ait pas cette égalité, cette égalité entre les filles et les garçons.
En quoi est-ce qu'on donne des filles aux poupées, ça peut nuire au fait qu'elles soient bien intégrées dans une société et qu'elles y prennent toute leur place?
C'est une image, hein. On a pris cette poupée, on a pris ce nounours et on a voulu faire passer le message aux filles pour leur dire vous pouvez aussi être dans les filières scientifiques, vous pouvez aussi être chercheur, vous pouvez être complètement faire partie de cette université à tous les niveaux. Et on voulait en même temps, enfin dans notre slogan, hein, il est indiqué que les garçons ils sont présents depuis longtemps et que les filles elles commencent à venir et à être plus là, plus massivement et à plus haut niveau. C'est pas encore au même niveau que les garçons, mais on va s'efforcer à ce qu'on en ait de plus en plus. Bon, il y a tout un ensemble de communications à faire. Essayer de briser ces idées reçues, c'est le plus gros travail. Pour l'instant, on en est à 2 ans d'existence de ce groupe. Depuis 2 ans, on a appris à se connaître et à échanger pour pouvoir affiner nos arguments. On n'est pas encore au top, on n'a pas 10 ans de présence, mais on y travaille en collaboration aussi avec des associations qui sont spécialisées dans le domaine et qui peuvent nous aider parce qu'elles ont beaucoup d'expérience.
Alors, si on prend au-delà de l'aspect des cours et des laboratoires, les filles et les garçons qui sont étudiants et qui vivent sur le campus, qui s'installent aux terrasses des cafés, etc., est-ce que vous voyez une mixité naturelle qui existe ou bien il y a aussi là des problèmes que vous rencontrez, enfin des problèmes ou des états de fait qui peut-être aussi génèrent d'autres conduites ailleurs.
Disons, si vous voulez, on a des échos par le fait qu'on a créé là tout récemment une commission harcèlement. Harcèlement parce que il y a une commission qui existe de la même façon à l'UL 3 qui est créée depuis quelques années. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que il y a une nécessité aussi de créer une telle cellule et il s'avère qu'on a eu déjà 2 réunions et on apprend aussi que les étudiantes vivent des situations difficiles, notamment par rapport au harcèlement sexuel. Et que cela peut entraîner des problèmes. On a vu dans l'autre université une étudiante qui a arrêté ses études suite à un problème de harcèlement sexuel. Et donc il faut... Ça ne doit pas être tabou. Ce sujet ne doit pas être tabou, il doit être abordé. Et ça peut être une des causes qui peut bloquer certains étudiants. Alors, ça peut être des agressions sexuelles entre étudiants, mais ça peut être aussi entre étudiants et enseignants.
Est-ce qu'il y a une forme de répression des filles par certains garçons dans le monde universitaire, d'une manière générale? Et quels sont les points, les excuses les plus souvent qui témoignent de ce genre de choses?
Alors, disons, si vous voulez, dans le comportement intrinsèque fille-garçon, on avait eu un témoignage aussi d'étudiante qui était au lycée et qui pensait comme vous, je dirais, quand vous m'avez interviewé, que pas de raison, maintenant, en 2010, il n'y a pas de différence. Et en fait, dans le concret... au cours de leurs études, au cours aussi de l'arrivée dans l'entreprise, elles étaient en entreprise déjà, elles ont observé des comportements effectivement qui montraient que cette parité n'était pas encore acquise et qu'il fallait y travailler. Alors je suis un peu gênée de ne pas avoir d'étudiantes et on va essayer de trouver des étudiants qui puissent s'impliquer avec notre groupe de travail pour pouvoir travailler avec eux sur les leviers et les situations concrètes pour pouvoir les aider davantage.
L'autre jour, j'ai vu une étudiante qui était complètement couverte, burqa intégrale sur l'université. Est-ce que vous pensez que là aussi, c'est une forme de répression? Et comment vous voyez les choses dans une université?
Là, c'est, disons que je vais avoir du mal à répondre d'un point de vue politique. Nous, ça nous gêne, c'est sûr que ça nous gêne. On se demande toujours s'il y a contrainte derrière, hein, comment est vécue la chose. On sait que c'est un sujet délicat à traiter. Aujourd'hui, on ne l'a pas, d'un point de vue de notre groupe, on n'a pas encore abordé précisément ce thème-là. Je pense que ça fera partie de ce qu'on a en projet, de travailler sur justement cette égalité homme-femme auprès des étudiants et de nous forger une opinion, un discours. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur l'aspect personnel, si vous voulez, avec cette charte égalité qui a été donc uniquement pour les personnels. On a donc publié ce fascicule et le projet qui est notre projet 2010-2011, c'est de communiquer avec les étudiants. On a un gros travail là à faire avec les étudiants, mais je crois qu'il fallait aussi qu'on fasse ce travail en interne au niveau des personnels pour les sensibiliser. Et par exemple, même au cours de la journée JPO, journée porte ouverte, finalement on a rencontré aussi des collègues à qui on a pu expliquer un peu les choses et dire bah oui, l'égalité ça vient pas tout seul. On a les statistiques qui nous prouvent qu'on a encore des difficultés et qu'il faut le travailler.
Alors, si on revient sur le problème que je posais tout à l'heure, est-ce que justement si le problème n'est pas traité ou du moins travaillé ou réfléchi dans le cadre qui est le nôtre ou le vôtre, il risque d'être utilisé, exploité, traité par ailleurs et sans forcément que les principes et les idées soient les mêmes ou les intérêts.
Tout à fait, c'est pour ça que je crois que notre groupe de travail a vraiment du pain sur la planche, entre guillemets. On a déjà fait beaucoup de choses, il faut maintenant qu'on renforce nos actions et notre communication, notamment notre communication, parce que une charte, comme on dit, si elle n'est pas communiquée, elle ne sert à rien.
Alors, par rapport à tout ce travail que vous menez, est-ce que les sociologues, qui sont nombreux quand même à exercer leur métier d'enseignant dans l'université, sont favorables à ce travail et vous aident dans vos entreprises?
Le groupe de travail est principalement composé de femmes. Sandrine Rousseau, qui est la vice-présidente étudiante via l'université et donc responsable de ce groupe de travail, est à la fac de sciences économiques et sociales. Mais ils n'interviennent pas dans notre groupe, en tout cas certainement pas suffisamment. C'est beaucoup de femmes qui se mobilisent, en fait. On s'aperçoit que c'est beaucoup de femmes, beaucoup d'enseignantes, par exemple en mathématiques. Ou en informatique. Peut-être dans des secteurs, si vous voulez, où on rencontre le plus de difficultés. Moi, j'ai un témoignage où, quand je suis arrivée à l'université en 2001, j'ai un professeur de mathématiques qui m'a regardé les yeux tout ronds quand je lui ai parlé de technique informatique. Et manifestement, il se posait la question, mais de quoi elle parle? Est-ce qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, cette femme-là? Vous voyez, j'avais vraiment ce sentiment-là. Ce qui n'était pas faux finalement, parce que ça m'a été corroboré par mes collègues de travail hommes, parce que dans l'informatique il y a beaucoup d'hommes qui me connaissaient et qui savaient bien sûr mes compétences. Mais vous voyez, c'est a priori.
Non, je parlais des sociologues tout à l'heure, parce qu'en fait ils donnent un éclairage sur le monde et sur la société. Ils sont sollicités par les étudiantes de travailler sur ce thème ou de leur apporter, comme à leurs camarades hommes d'ailleurs, des précisions, des informations, est-ce que vous pensez qu'ils se pencheront réellement sur le sujet?
Bien, on pourrait peut-être en craindre que la réponse soit pas forcément positive, étant donné que déjà la participation à ce groupe de travail a été faite de façon volontaire. Hein. Les personnes qui étaient volontaires pour participer à ce groupe de travail s'inscrivent. Donc, manifestement, ils n'ont pas été volontaires.
Mais
ils n'ont pas fait partie des volontaires.
Peut-être que la communication peut se faire à leur niveau
tout
pour qu'ils le deviennent.
Tout à fait.
Hein, oui.
Tout à fait. Je pense qu'on a encore un gros travail à faire dans l'université pour mobiliser encore plus de personnel qui vont venir nous aider à enrichir ce groupe et à donc progresser encore mieux sur l'université.
Par ailleurs, est-ce qu'on peut encourager les étudiantes, par exemple, à participer à la vie sociale de l'université, aux événements qui s'y passent, aux fêtes éventuellement aussi, bien sûr?
Les encourager à participer à la vie de l'université, je pense que c'est important pour une étudiante, d'ailleurs, comme pour un étudiant.
Et justement, donc là, il va y avoir un certain nombre de fêtes avec l'été, mixité, etc., avec le printemps, l'été qui arrive. Est-ce que vous les sentez engagées, partie prenante des projets, suffisamment ou pas?
Disons qu'il faudrait poser la question plutôt à Sandrine Rousseau, hein, qui gère tout ça, c'est vrai. Moi, je le vois d'un peu plus loin, j'avoue. Donc, moi, je crois que la semaine prochaine, on va parler du festival
fait,
mixité, pour ça justement.
On va préparer les questions déjà pour la semaine
voilà,
prochaine.
Voilà, tout à fait. Donc, je pense
que la mixité est aussi à ce niveau-là.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Je voulais préciser aussi, parce que je vois qu'on arrive à la fin de l'émission, qu'on a préparé également un dossier de labellisation. Qui est un dossier dont nous serions la première université à signer, avec la ville de Rennes qui est la seule structure publique. Et c'est pour s'engager vers une démarche sur l'égalité, pour que l'université montre sa volonté d'améliorer cette égalité homme-femme. Donc c'est quelque chose de très fort, très important. Et donc il y a un dossier complet qui est assez normalisé, c'est la FNOR.
Ça pourrait faire partie des critères pour Shanghai, l'université.
Voilà, tout à fait. Voilà, bien
ça
sûr.
Peut inciter les gens à faire des efforts alors.
Bien sûr, ça fait partie certainement de critères. Alors c'est tout un ensemble d'indicateurs, effectivement. Hein, c'est la mode aujourd'hui de calculer des indicateurs. Je le fais dans le cadre de mon travail. Et pour l'égalité femmes-hommes, on fait un ensemble d'indicateurs, on les suit année par année. Par exemple, on voudrait s'inspirer de la démarche du CNRS, qui a une démarche active dans ce domaine-là, et qui a créé un livret parité, et qui calcule un indicateur de parité tous les ans. Donc, voilà.
Voilà, mais on se retrouve l'année prochaine pour voir s'il y a une bonne évolution.
Tout à fait, très bien.
Merci beaucoup, Brigitte Valin.
Au revoir.
Vous écoutez Radio Campus en 6,6 FM. Dans quelques instants, ce sera le Villeneuve Mag. Patricia et toute son équipe vous l'ont préparé.